France Culture.
Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Un journal largement consacré à la disparition du pape François au lendemain de Pâques. Au Vatican, comme à Notre-Dame de Paris, des milliers de fidèles se rassemblent ce soir pour rendre hommage au souverain pontife. François, un homme de conviction et de contradiction qui défendait les pauvres et les migrants, tout en refusant de réformer en profondeur l'Église catholique. Il fut aussi très actif sur la scène diplomatique mondiale, nous expliquera Bruno Duvic. Enfin, nous évoquerons avec Mathieu Laurent le rôle crucial du pape François dans le soutien aux migrants. C'est dans son modeste appartement de la résidence Sainte-Marthe au Vatican que le pape François a rendu son dernier souffle à 7h35 précisément ce matin. Le souverain pontife est mort au lendemain de Pâques après un ultime bain de foule en papa mobile sur la place Saint-Pierre. Il était apparu très affaibli, mais sa disparition brutale à 88 ans, quelques heures à peine après cette dernière sortie publique, est évidemment un choc pour la foule présente à Rome. On retrouve au Vatican l'un de nos envoyés spéciaux, Simon Le Baron. Bonsoir.
Bonsoir.
Simon, il y a actuellement beaucoup de monde sur la place Saint-Pierre.
Difficile de vous dire combien sont venus spécialement, la plupart sans aucun doute sont des touristes qui avaient de toute façon prévu d'être ici, mais j'ai croisé aussi des Romains sortis du travail qui tenaient à venir rendre hommage au plus grand pape de l'histoire, comme me l'a dit l'une d'elles, Adélé, qui retient son humilité, son engagement pour l'environnement et son attention aux plus pauvres. Quoi qu'il en soit, comme tous les jours, c'est le monde qui est ici sur cette place Saint-Pierre sous le soleil de cette fin d'après-midi romaine. Et chez tous ceux à qui l'on parle, c'est un mélange de tristesse et de soulagement. Je viens de parler par exemple à un groupe venu de Suisse en pèlerinage. Ils m'ont dit la tristesse de savoir qu'ils ne le verront pas alors que le pape François devait les recevoir en audience mercredi. Et le soulagement donc de savoir que ces souffrances sont terminées. Ces milliers de personnes pourront se recueillir dans 1h30 lors d'une messe en public, la première d'une longue série ces prochains jours, l'occasion de verser encore quelques larmes pour les fidèles qui l'aimaient, même si vous l'avez dit, ce pape a aussi divisé l'institution et les fidèles catholiques, l'occasion donc de verser encore quelques larmes, comme pour cette dame qui s'est excusée il y a quelques minutes quand je l'ai rencontrée, de ne pas pouvoir parler après avoir pleuré, m'a-t-elle dit, toute la matinée.
Merci Simon Le Baron en direct de la place Saint-Pierre à Rome avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques. Avec la mort du pape François, l'Argentine perd le premier souverain pontife de son histoire. Car avant de prendre la tête de l'Église catholique en tant qu'évêque de Rome, Jorge Bergoglio avait été l'évêque de Buenos Aires de 1998 à 2013, 15 ans au service des pauvres de son pays, au risque parfois de froisser le pouvoir argentin. Le reportage à Buenos Aires de Caroline Ville.
Tristesse et solennité dans l'église de San José, dans le quartier de Flores où est né le pape, où des dizaines de fidèles sont venus se recueillir. Norma, 61 ans.
Sa simplicité m'a toujours plu. Ça a été un très bon pape. Il a toujours aidé les pauvres. Il suivait les pas de Jésus. Il était jésuite. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas venu ici à cause de sa santé. C'était un homme très charismatique.
Le grand regret des Argentins est en effet qu'il ne soit pas rentré au pays. Pourquoi ? Certains parlent de sa santé fragile, d'autres de ses différences idéologiques, notamment avec la droite. Le père Martin Bourdieu, curé à San José et ami du pape François.
Malheureusement, il est tombé dans les divisions politiques. Les gens ont jugé Bergoglio et non pas le pape François. Mais ce que le pape laisse en héritage aujourd'hui est énorme. Je crois que l'histoire va tout accommoder et remettre les choses à leur place.
Mais au-delà des différences politiques, les Argentins aimaient profondément le pape François. Un homme moderne, courageux, simple, proche des gens et passionné de football, bien sûr. C'est ce qui restera dans la mémoire des Argentins qui prieront aujourd'hui pour leur pape. 7 jours de deuil national ont été décrétés.
Caroline Vic, et effectivement, le président argentin Javier Milei a décrété ces 7 jours de deuil national. Lui qui avait copieusement insulté le pape François, qu'il avait traité notamment de gauchiste et de personnage néfaste. Depuis son élection à la tête de l'Argentine, Javier Milei s'était réconcilié avec son compatriote dont il salue aujourd'hui la bonté et la sagesse. Les catholiques français saluent aussi la mémoire du pape François, même si notre pays n'était pas vraiment une priorité pour lui. 3 déplacements en France en 12 ans de pontificat. Strasbourg en 2014 pour les institutions européennes, Marseille en 2023 et la Corse en décembre dernier pour la Méditerranée. En revanche, François ne s'était pas rendu à Notre-Dame de Paris pour la réouverture de la cathédrale début décembre, malgré l'invitation insistante de l'Élysée. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez à Notre-Dame tout à l'heure, où là aussi la foule est au rendez-vous depuis l'annonce de la mort du pape. Notre-Dame, où une messe sans sa mémoire vient de débuter.
En ce jour férié en France, ils étaient nombreux à avoir saisi l'occasion pour venir visiter Notre-Dame, sans penser qu'ils allaient vivre aujourd'hui un moment d'histoire.
On l'a appris en visitant, pendant la visite.
Laurent est donc resté pour assister à la messe de midi. Il garde une image du pape François en tête.
Le sourire qu'il avait, toujours. Et c'était un pape très novateur parce qu'il avait toujours les petits à côté de lui.
C'est cette image d'un pape souriant que le diocèse de Paris a choisi d'afficher à côté de l'autel de la cathédrale durant toute la durée de la messe devant une foule de fidèles, tous très émus de vivre ensemble ce moment. Louis-Marie est venu avec ses enfants.
C'est émouvant et c'est beau de se retrouver tous ensemble pour prier ensemble. On sent que dans ces moments-là que l'Église se regroupe. Et c'est là où l'unité de l'Église fait tout sens.
En vacances à Paris, originaire de Québec, Sylvie était sous le choc ce matin quand elle a appris la mort du souverain pontife qu'elle admirait pour son ouverture d'esprit.
Lors de son élection, il avait enlevé un peu tout le côté protocolaire de l'affaire puis il allait rencontrer les gens. C'était plein d'amour, qui voulait vraiment revenir à l'Évangile.
Un pape progressiste, c'est ce que retiennent aussi les non-croyants, comme cet habitant du quartier. Même s'il n'est pas catholique, c'était important pour lui de venir sur le parvis de la cathédrale.
Il a essayé de réformer l'Église pour tolérer les homosexuels. Bon, évidemment, dans tout ce qui est des agressions sexuelles, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais sinon, dans tous les domaines, il a essayé d'être progressiste.
Environ 1500 personnes ont assisté à la messe ce midi. Des milliers d'autres sont attendus toute la soirée pour une veillée organisée dans la cathédrale et qui doit durer jusqu'à minuit.
Merci Jeanne Serrin pour ce reportage à Notre-Dame de Paris. Le pape des pauvres, voilà l'image que l'on retient le plus souvent de François, mais il y avait aussi une dimension diplomatique dans son pontificat. Le pape a multiplié les prises de position sur les conflits du monde, comme Gaza ou l'Ukraine, des déclarations qui ont souvent suscité la polémique dans les pays concernés. Bruno Duvic, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno, correspondant à Rome, on va évoquer avec vous les grandes dates de l'action diplomatique du pape François.
Les années qui suivent son élection, François réalise trois grands coups diplomatiques. Septembre 2015, rapprochement USA-Cuba, les deux dirigeants, Castro et Obama, remercient le pape pour ses bons offices. Février 2016, à nouveau à Cuba, il rencontre le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill. Jamais les chefs des deux églises ne s'étaient rencontrés depuis le schisme au Moyen-Âge. Un peu plus tard, 2018, l'accord avec la Chine pour la nomination en commun des évêques dans un pays où l'église est tenue sous le boisseau. Quel héritage ! Cet accord renouvelé récemment a permis la nomination d'une dizaine d'évêques, mais une partie des fidèles reste maltraitée. Beaucoup estiment que François ne leur a pas rendu service. Kirill, François comptait sur ce contact pour jouer un rôle de pacificateur quand a éclaté la guerre en Ukraine. Le Vatican a dû se contenter d'une discrète mission pour des échanges de prisonniers. Il n'y a plus de contact avec le patriarche. L'Ukraine, le Proche-Orient, dans les deux guerres majeures du moment, la position du pape n'a pas toujours été comprise. Plus encore que les autres, François ne jurait que par la paix. Le concept de guerre juste, un temps évoqué au Vatican, n'était plus de mise. Quand il conseille aux Ukrainiens d'avoir le courage de hisser le drapeau blanc, un moment de crise passe entre le Saint-Siège et Kiev. Quant aux relations avec les États-Unis, elles se sont singulièrement dégradées depuis l'élection de Donald Trump. Le dossier des migrants en particulier oppose violemment Washington et le Saint-Siège. Mais paradoxalement, le dernier officiel que le pape défunt aura reçu, c'est le vice-président J.D. Vance, emblème d'un catholicisme ultra-conservateur aux États-Unis, qui ne portait pas François dans son cœur.
Bruno Duvic, correspondant à Rome, merci. L'image du pape François, c'est aussi celle d'un pape progressiste attaché à la justice sociale face au pouvoir de l'argent. Une image qu'il convient de nuancer, car Jorge Bergoglio n'était pas vraiment disposé à renverser les dogmes catholiques. Écoutez à ce sujet l'analyse de Christiane Rancé, biographe du pape François.
C'est quelqu'un qui était profondément attaché à l'institution de l'Église. Il n'a jamais été un réformateur pour ça. Il a toujours été très réticent sur toutes les questions dogmatiques qui concernent justement ces questions du mariage des prêtres, du diaconat des femmes, du mariage des couples homosexuels. Alors, il a lâché par moments parce qu'il savait quelle réputation il avait justement d'être très progressiste à cause de ses prises de position sur les migrants, sur sur la pauvreté, mais pour lui, il était là pour aussi pour sauver l'Église. Et toutes les réformes qu'on lui demandait lui semblaient profondément dangereuses pour l'institution. C'est pour ça qu'il a toujours laissé ces questions ouvertes en disant que la bénédiction des couples homosexuels, eh bien, c'était possible, mais en dehors de toute liturgie. Donc il est resté très, très vague là-dessus, en ouvrant soi-disant des fenêtres, mais en refusant lui-même de participer à cette réforme. En revanche, il a pris des décisions extrêmement courageuses et drastiques pour ce qui a concerné, ce qui touchait aussi profondément le scandale de l'Église, c'est-à-dire les questions financières. Il a réformé l'Institut des œuvres religieuses, c'est-à-dire l'IOR, la Banque Vaticane qui était très 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 corrompue et touchée, enfin en partie corrompue et touchée par les scandales, mais pour toutes les autres questions qui pouvaient remettre en cause l'image de l'Église et la personne des prêtres à laquelle il est très très attaché, mais il a été très réticent, il a quand même été très très réticent, en fait très ralentisseur des questions sur les questions de pédophilie.
Christiane Rancet, biographe du pape François, elle répondait à Thomas Cluzel dans notre journal de 12h30. Le titre de son ouvrage, paru en 2014 chez Albin Michel, François, un pape parmi les hommes. Revenons à présent sur cet aspect fondamental du pape François, son engagement auprès des migrants, un engagement qu'il avait affirmé dès le début de son pontificat. Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Les ONG qui viennent en aide aux migrants saluent ce soir l'œuvre de François en faveur des exilés.
Oui, la Méditerranée ne peut devenir un cimetière sans que l'Europe ne trahisse ses valeurs fondamentales. Voilà ce qu'aura avancé avec détermination le pape François. Une constante qui a marqué Antoine Laurent, marin sauveteur à bord du navire ambulance l'Aquarius en 2016.
Sa première visite à l'extérieur de Rome, c'était à Lampedusa en 2013, quelques semaines avant l'un des pires naufrages de la Méditerranée. Et c'est indéniablement une grande perte pour tous les combattants, on va dire, d'un monde plus solidaire, plus égalitaire, plus juste, y compris pour des athées hein, comme moi, des athées laïcs que je suis, face à la montée d'un autre projet de civilisation beaucoup plus tragique, de repli, de rejet de l'autre, et qui même parfois prend une certaine forme de nouveau suprémacisme, et donc espérons que l'on se souvienne de l'ensemble de ses paroles tout au long de sa vie.
Des paroles auxquelles a été attentif Henri Masson, qui pourtant préside une institution liée au protestantisme, la CIMAD.
Il n'y a pas de différence au-delà de toute confession, de toute croyance, et tout, que l'on en est ou que l'on n'en est pas. Toute parole d'ouverture vis-à-vis de cet accueil des personnes migrantes ne pouvait qu'être une parole qui est écoutée, et je les ai écoutées, et en particulier lorsqu'il était venu à Marseille. Et c'est vrai que cette parole était tellement importante qu'on aurait pu penser que les autorités publiques de notre pays qui étaient présentes en auraient tiré quelques conséquences. Et malheureusement, nous le voyons aujourd'hui avec des projets de loi terribles pour les personnes étrangères. On se dit que effectivement sa parole n'a pas été entendue à défaut d'avoir été écoutée.
Le pape François, la plupart des ONG en conviennent, aura tout au long de son pontificat rappelé aux puissants chefs d'État et dirigeants économiques leur devoir d'humanité parce que les politiques migratoires, martelait-il, brise les vies.
Mathieu Laurent. Les obsèques du pape François doivent être célébrées d'ici la fin de la semaine à Rome. C'est un conclave de 135 cardinaux électeurs qui désignera son successeur. Ce conclave doit se réunir d'ici 15 à 20 jours. Le pape François avait choisi environ 80% de ses cardinaux électeurs. Notez enfin qu'en 2022, Bruce de Galzin, alors correspondant de Radio France à Rome, et Franck Ballanger avaient réalisé une série de vidéos sur le pape François pour la rédaction internationale de Radio France. Cette vidéo que vous pouvez retrouver en lien sur le compte X de la rédaction de France Culture. C'est à Mayotte qu'Emmanuel Macron a appris la mort du pape François. Il a rapidement adressé, je cite, ses condoléances les plus sincères aux catholiques du monde entier, tout en saluant la mémoire d'un homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Le chef de l'État qui est à Mayotte pour donner un coup d'accélérateur à la reconstruction, 4 mois après le passage du cyclone Chido. Le bilan est lourd dans l'archipel, 40 morts et 3,5 milliards d'euros de dégâts. Et la population mahoraise attend toujours le début des grands chantiers de cette reconstruction. Le reportage à Mayotte d'Elie Abergel.
Oui, pourtant Emmanuel Macron est revenu à Tsingoni, là où des Mahorais l'avaient chahuté en décembre, dépité par la violence du cyclone qui venait de ravager l'archipel. Mais cette fois, les échanges sont courtois.
Ça, c'est sa maison avant et sa maison après.
Le président écoute les habitants se plaindre des difficultés à obtenir des prêts à taux zéro, une des mesures promises pour reconstruire après le cyclone.
On attend que ça pour réparer nos maisons parce qu'elle, elle a 3 ans. Là, elle a vécu beaucoup de choses.
Faites venir au bas de la rue la personne de la banque. Et puis c'est madame, elle va venir avec nous. On va regarder en
reconstruction réel. Lente, difficile. Depuis 4 mois, cette Mahoraise et sa fille de 3 ans dorment avec une bâche en guise de toit.
Il y a la pluie qui tombe. On n'arrive pas à surmonter, mais doucement. Non, je ne peux pas. Je peux pas parler plus.
Sentiment d'abandon par l'État, ici, à Mayotte.
On voudrait être considérés comme des vrais Français. Parce que pour le moment, on n'a pas le sentiment d'être des vrais Français.
Nous ne sommes pas au moment d'une reconstruction pleine et entière, reconnaît Emmanuel Macron, qui assure être venu pour mettre un coup d'accélérateur.
Élie Habergel, envoyée spéciale à Mayotte. Elle était l'une des figures de la politique de normalisation du Rassemblement national. L'essayiste Malika Sorel vient de quitter la délégation du RN au Parlement européen. Et cela moins d'un an après avoir figuré en deuxième position sur la liste de Jordan Bardella. L'eurodéputé invoque une logique de groupe oppressante pour la réflexion intellectuelle. « Je n'ai jamais été membre du Rassemblement national, mais je pensais pouvoir être utile à la France au sein de cette délégation. J'ai été déçu », conclut Malika Sorel sur le réseau X. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Stanislas.
Derrière ces propos, Antoine, comment peut-on expliquer ce départ ?
Eh bien, le recrutement de Malika Sorel au sein de la liste RN, c'est l'histoire d'une fausse bonne idée. L'idée semble bonne au départ car cette femme franco-algérienne venue de la droite qui se qualifie d'intellectuelle semble être une prise de guerre, un symbole de diversité pour un parti à la recherche de respectabilité et de personnalité issue de la société civile. C'est donc d'abord le profil de Malika Sorel qui séduit le Rassemblement national plutôt que son propos, parfois confus. Dans Le Figaro, où elle donne sa première interview de candidate, elle explique vouloir participer à la recomposition française en rejoignant Marine Le Pen et Jordan Bardella, et elle vilipende Emmanuel Macron qui, selon elle, a consacré le triomphe du mépris social, du mépris de classe et du mépris intellectuel. Mais dès le départ, rien ne fonctionne. 2 jours après la publication de cet entretien, Le Canard Enchaîné révèle que Malika Sorel a proposé ses services au même Emmanuel Macron quelques mois plus tôt. Le soir même, elle tente de se justifier devant les journalistes, sans convaincre. Depuis, celle qui était devenue eurodéputée s'était faite très discrète. Et c'est sur le réseau social X qu'elle a annoncé il y a 2 jours quitter la délégation du RN au Parlement européen. Elle se dit déçue par le parti de Jordan Bardella, dénonçant une logique de groupe oppressante qui, je cite, « impose de renoncer à tout degré de liberté ». Commentaire d'un cadre du parti. On est dans le cas typique d'une personnalité de la société civile qui ne comprend pas la politique et la discipline de parti. Malika Sorel renonce donc au RN, mais pas à son poste d'eurodéputée, pour le moment en tout cas.
Un décryptage signé Antoine Marette. Moscou va analyser l'offre du président ukrainien Volodymyr Zelensky de prolonger de 30 jours la trêve sur les frappes de drones et de missiles contre les infrastructures civiles. Déclaration ce soir du président russe Vladimir Poutine. Tout cela mérite d'être étudié attentivement, peut-être de façon bilatérale à la suite de dialogues. Nous n'excluons pas cela. Voilà ce que déclare le maître du Kremlin. Dans le même temps, Vladimir Poutine accuse Kiev de dissimuler des cibles militaires derrière des infrastructures civiles. On termine ce journal avec un mot du temps demain qui restera variable avec des averses sur de nombreuses régions. Il neigera sur les Pyrénées aux alentours de 1800 mètres d'altitude. 5 départements restent en vigilance orange pour un risque d'inondation. La Charente maritime, la Corrèze, la Dordogne et la Gironde. Demain matin, il fera entre 4 et 9 degrés en général, jusqu'à 13 degrés près des côtes. Les températures maximales iront de 14 à 20 degrés, voire 23 degrés dans le sud-est. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Ludovic Auger.